Je retrouve Amir qui est installé dans sa voiture. Il fixe le volant sans daigner lever la tête vers moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Il attend que je mette ma ceinture sans pour autant me regarder, puis il démarre en vitesse.
Qu'est-ce que Fatih t'a dit?
Me demande timidement Amir. Il est angoissé. Je le fixe. Mais il n'ose toujours pas m'observer. Rien d'important.
Il ne t'a pas parlé de ce que j'ai fait en prison?
Insiste Amir mal à l'aise. Je hausse les sourcils surprise. Amir appréhende quelque chose, mais il ne veut pas me dire ce que c'est. Ça ne lui ressemble pas d'être aussi stressé. Je ne parle pas car je sens que ce n'est pas le moment et qu'il est en train de faire un cheminement personnel dans son esprit. Mais j'aimerais des réponses à ce comportement si déroutant. Alors que nous traversons l'autoroute, il emprunte une autre sortie que celle qu'il aurait dû prendre. Il prend un chemin inconnu alors qu'il aurait dû continuer tout droit pour retourner à la villa. Je ne sais pas où est-ce qu'il nous emmène. Ses mains sur le volant sont moites et il le serre particulièrement fort. Pourquoi tu ne prends pas la bonne route? Je crois que tu t'es trompé de chemin. Je lui dis. Amir se racle la gorge en scrutant la route. C'est étrange qu'il n'ose pas me regarder depuis que nous avons quitté Fatih.
Je sais ce que je fais,
me répond Amir sur un ton embarrassé. Pourtant, ça donne l'impression d'être tout l'inverse. Il me stresse à agir aussi étrangement. Où est-ce qu'il nous emmène? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Fatih a bien pu dire pour qu'il se mette dans cet état? Est-ce que ça va? Je l'interroge, préoccupé. Il entr'ouvre les lèvres pour me répondre, mais il s'abstient à la dernière minute. Je n'insiste pas, de peur qu'on fasse un accident au vu de son attitude. Il a besoin de concentration. Il ne cesse de se gratter le cou et de passer l'une de ses mains sur son visage. Il ouvre aussi la fenêtre comme s'il avait chaud alors qu'il fait froid. Je ne cesse pas de le scruter en attente d'une explication. Le voir agir ainsi me met mal à l'aise. Nous sommes sur une route désertique. J'aperçois au loin l'entrée d'une clairière. Il s'enfonce progressivement dans celle-ci. Je ressens des à-coups lorsque nous pénétrons dans la clairière. Amir n'a pas émis un commentaire, tout comme moi. Brusquement, il s'arrête. Je l'observe avec incompréhension ainsi que les alentours à la recherche d'un quelconque ennemi qui l'aurait contraint à se stopper. Mais je ne vois rien. Le silence dans la voiture est pesant.
Fatih a raison,
déclare amèrement Amir. Je hausse les sourcils. Il se décide enfin à tourner la tête vers moi et me fixe. Ses yeux ne reflètent que de la tristesse, de la honte et des regrets. Je tente de toucher son bras pour lui demander ce qu'il a, mais il me fait un signe négatif de la tête, alors je m'abstiens.
J'ai besoin de te parler, Kara.
Il ne me laisse même pas le temps d'en placer une qu'il ouvre sa portière et descend. Je fais de même. Il se met à avancer devant moi. Je le suis. Je suis dans l'incertitude. Nous traversons la clairière jusqu'à ce que nous arrivions devant un lac au bord duquel il y a un petit ponton en bois. Amir s'y engage et je l'imite. Nos bruits de pas qui se mêlent au son des branches intensifient mon angoisse. Amir s'assoit au bout du ponton. Je me place à ses côtés et détaille le paysage. C'est magnifique. C'est si calme qu'on entend le chant des oiseaux. J'ai rarement vu un endroit aussi apaisant. Amir se tourne vers moi et se racle la gorge.
Je ne me suis jamais excusé pour mon attitude en prison et pour tous les propos que j'ai tenus à ton égard.
M'avoue Amir en se frottant nerveusement les mains. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ce qu'il reparle de notre passé. Je me fige en me remémorant ses souvenirs douloureux. Il me haïssait tout comme je le détestais. J'étais venue en infiltration pour découvrir ce qu'il dissimulait, et il passait constamment son temps à me rabaisser pour me montrer que je lui étais inférieure. Sur le coup, un sentiment amer me prend en repensant à tout ceci. Il est vrai que son attitude à mon égard n'était pas normale et qu'il y a énormément de manquements que je n'aurais pas dû laisser passer. Nous n'en avions jamais reparlé. Je suis contente qu'il le fasse. Pour espérer avoir un avenir meilleur, nous devons mettre des mots sur tout ce qui s'est produit entre nous. « Je t'écoute ?» Je lui dis. Il opine de la tête.
Les paroles de Fatih m'ont permis de me remémorer à quel point j'avais été odieux envers toi. Je me souviens de tout ce que je t'ai fait. Il a fallu que Fatih me rappelle mon comportement pour que je me rende compte des choses, et c'est bien dommage.
Soupire Amir.
J'aurais dû avoir cette réflexion bien avant.
Il marque une pause.
Je me méfiais de tout le monde. Je savais que tu n'étais pas une vraie gardienne, et je voulais comprendre ce que tu me voulais. Quand j'ai appris que tu étais la fille d'Ahmed et qu'il t'avait envoyé pour m'espionner, j'ai accompli un transfert de toute la haine que je ressentais à son égard sur toi alors que tu n'avais rien demandé à personne. J'en voulais tellement à ton père d'avoir voulu me doubler alors qu'il n'avait jamais rien fait pour obtenir cette puce. Je suis allée bien trop loin, me confesse Amir. J'ai mal au cœur en repensant à cette période de ma vie. Je n'ai jamais voulu partir en infiltration. Tout ce que j'ai fait, c'était pour mon père. Je ne voulais pas attirer ses foudres et je me suis retrouvée dans un endroit sordide et hostile où tout le monde me haïssait et voulait ma tête. J'ai eu des paroles et des comportements inexcusables à ton égard. Tu ne méritais pas toute cette haine, ajoute Amir en soupirant. J'étais censée être une machine de guerre et maintenant que tu me dis ça, je me rends compte qu'il y a énormément de choses qu'on s'est faites tous les deux qu'on n'aurait pas dû. Je lui réponds. Il hoche la tête en scrutant le lac. J'étais tellement habituée au manque de respect, aux humiliations, aux insultes et à la violence à cause de mon père et de son gang que tout ça était devenu une normalité. Le monde du crime est un milieu sombre et cruel. Mais ça ne légitime pas mes actions néfastes pour Amir et celles qu'il a commises en retour contre moi. Entre le début de cette histoire et maintenant, nos façons de communiquer avec Amir ont bien changé. Nous passions notre temps à nous insulter, à être vulgaires, et maintenant, nous le sommes beaucoup moins car nous avons compris. Nous avons compris que ça ne servait à rien de se déchirer. Mon père m'a toujours dit d'être froide, méprisante et forte. Ne laisse personne te pisser à la gueule. Celui qui osera le faire, mets-lui une balle entre les deux yeux sans aucune pitié, sinon tu finiras sous terre. Cette phrase a forgé mon enfance. Mais ça n'aurait pas dû être le cas. Ce n'est pas normal de s'insulter pour imposer le respect et de se battre pour survivre. Il serre les poings en se mordant la lèvre. Je ne sais pas si mes justifications pourront t'apaiser un peu. Mais je te les donne, même si ça n'excusera pas mon comportement. Je regrette tellement mon attitude. J'ai dû attendre d'être avec toi pour apprendre comment on traite une femme. Je n'étais qu'un homme arrogant et imbu de sa personne quand on s'est connu, qui pensait que le monde tournait autour de lui et que tout le monde cherchait à lui prendre ce qu'il avait. J'ai été conditionné à être un monstre, à me battre pour garder ma place et à détruire tous les éventuels obstacles. M'explique Amir. Mon rapport avec les femmes a toujours été complexe à cause de mon paternel et de mon enfance, et je sais que ça n'excuse rien. Cette discussion me fait réaliser tellement de choses. Ça fait du bien de l'entendre reconnaître ses torts, de voir qu'il est capable de se mettre à ma place. J'étais tellement motivée par mon désir d'avoir la puce, de vaincre ton père et de ne pas me laisser me faire détruire que je t'ai utilisée dans ma guerre. Tu m'intriguais tellement, Kara. Je devais te tester pour saisir le genre de femme que tu étais. Je cherchais à comprendre comment Ahmed avait pu décider d'envoyer sa fille unique dans un lieu aussi dangereux. Je devais aussi saisir pourquoi tu avais baissé ton couteau face à moi en prison alors que j'étais une menace. Je ne m'expliquais pas non plus pourquoi une femme comme toi avait débarqué avec des ecchymoses sur le visage. Je ne savais pas que c'était parce que tu craignais ton paternel. J'ai utilisé une méthode stupide pour te cerner. J'aurais pu le faire d'une autre manière. Je te demande pardon de t'avoir demandé de m'embrasser après t'avoir sauvé des griffes de Franck et Anis. Tu venais de vivre une épreuve horrible et je n'aurais jamais dû faire cette connerie. Je ne me suis pas rendu compte de mon égoïsme et de ma cruauté, me confesse Amir en baissant la tête. Je ne recommencerai plus, je te le jure, sur ce que j'ai de plus précieux dans cet univers. Après de tels propos, je me rends compte qu'Amir faisait attention à chaque détail alors qu'il feignait l'indifférence. Il avait compris dès le début que j'étais sous l'emprise de mon père. Ses excuses me touchent. Je sais qu'il les pense et qu'il a honte de son attitude. Je crois en sa sincérité et en sa volonté de ne plus me faire du mal. Peu importe ses motivations, rien ne justifiait son action et il le sait. J'aimerais tant être à ta hauteur, Kara. Mais je ne le serai jamais. Je te demande pardon pour toutes les manipulations. Je te demande pardon d'avoir mis les puces dans ton corps. Je te demande pardon pour tous les mauvais regards, les insultes, les cris, les larmes et pour tout le mal que j'ai pu te faire, que ce soit volontairement ou involontairement. Les raisons qui me motivaient ne comptent pas, je n'aurais jamais dû faire ça sans ton accord. Admet Amir. Amir marque une pause en baissant toujours la tête. Je me mords la lèvre pour me retenir de fondre en larmes. Personne ne s'était jamais excusé pour les douleurs qu'il m'avait infligées, qu'elles soient psychologiques ou physiques. J'ai toujours cru que je ne méritais pas d'en recevoir. Mais j'avais tort. J'avais le droit d'obtenir des excuses. Dès le premier jour, je savais que tu étais quelqu'un de spécial. Mais je ne pensais pas que ça serait à ce point et que tu changerais autant mon avenir. Je n'aurais voulu personne d'autre que toi à mes côtés. Nous étions destinés à entrer dans la vie l'un de l'autre. Merci d'avoir cru en moi et d'avoir changé ma vie. Tu es irremplaçable. Je vais me battre pour mériter ton pardon et pour être digne de toi. » Conclut Amir. Mes yeux errent sur le lac. La beauté du lieu m'apaise et me donne envie de croire que notre futur sera radieux et qu'on aura une belle fin malgré tout ce que nous avons vécu. J'ai envie de croire à cette relation et à sa volonté de rédemption. Je mets ma main dans la sienne. Il est surpris. Il relève la tête et me fixe, choqué. Je lui offre un sourire plein d'espoir. « Je te pardonne, Amir Ben Khalif. » Villa Ben Khalif, 20h52. Nous descendons de la voiture d'Amir et rentrons à la villa. J'ai cru que nous allions partir récupérer la puce, mais Amir m'a dit qu'il devait régler des petites choses en amont. J'ai acquiescé. Plus elle est loin de nous, et mieux je me porte. J'aperçois une silhouette inconnue qui semble hésiter à toquer à la porte de la villa. Amir la regarde, sceptique, puis nous nous dirigeons vers elle.
« Vous cherchez quelque chose ?»
s'enquiert Amir. L'individu se tourne vers nous. Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années au teint mat, aux yeux bleus et aux cheveux châtain clair ondulés, lui arrivant aux épaules. Elle est vêtue d'une belle robe noire jusqu'au-dessus des genoux et d'une veste de tailleur beige. Ses escarpins doivent être d'un grand créateur. Elle a aussi un magnifique collier dont les diamants scintillent autour de son cou. Elle est si belle et classe. Quand son regard croise celui d'Amir, elle vacille. Ses jambes lâchent, elle manque de tomber, mais Amir la rattrape. Elle est inconsciente. Amir m'observe sans comprendre. Il la soulève et j'ouvre la porte d'entrée, puis il va la poser sur le canapé du salon. Je vais lui chercher un verre d'eau. Quand je reviens, la femme est réveillée, assise sur le canapé. Amir se tient debout à côté d'elle sans rien dire. Je lui tends le verre qu'elle prend en me remerciant. « Vous allez bien ?» je demande. Elle hoche la tête.
« Pourquoi étiez-vous devant chez moi ?»
la questionne Amir avec son tact légendaire. Il se méfie toujours, mais cette inconnue a l'air inoffensive. Elle ne parvient pas à regarder Amir dans les yeux. Elle semble se sentir mal.
« J'attends une réponse à ma question. »
« Il ne sait pas y aller doucement ou quoi ?» Elle vient d'avoir un malaise. Elle cherche ses mots. Elle reprend sa respiration, puis elle se redresse. « Je m'appelle Alba Sanchez. » déclare-t-elle. « C'est censé nous dire quelque chose ?»« Je suis venue ici car je cherche quelqu'un. Je cherche... mon fils. » dit-elle en baissant la tête. « Quoi ? Ne me dites pas que c'est la mère de Josh. » Amir Ben Khalif, ajoute-t-elle. Le monde s'est arrêté. Nous ne bougeons plus. Nous la fixons uniquement. Amir est sous le choc, tout comme moi. Ça ne peut pas être possible. Sa mère est morte depuis des années. Je ne sais pas ce que cette femme veut, mais il vaut mieux qu'elle parte immédiatement avant de semer le chaos. Amir s'approche d'elle et la scrute attentivement. Il serre les poings tout en l'assassinant du regard.
« Qui vous envoie ? Ma mère est morte depuis des années. Qui est le fils de pute qui vous a engagé pour jouer ce rôle ?»
s'exclame Amir. « Personne ne m'envoie. Je suis ta mère, Amir. » Il la dévisage et fronce les sourcils.
« Arrêtez ! Ma mère est morte, vous m'entendez ? Elle est morte !»
crache Amir avec haine. « C'est ce qu'on a voulu faire croire au monde entier. » admet-elle. Alba, flashback. Quelques années plus tôt. 21h59.
Ousni va te tuer après l'accouchement,
annonce Naël. Ce qu'il vient de dire m'abat. Je me tends et tente de masquer ma panique. Je suis bientôt à terme et ce monstre prévoit de se débarrasser de moi dès que son fils sera né. Je ne suis pas surprise par sa décision. Ousni se fiche de moi et de cet enfant.
Je connais mon frère, Alba. Dès que le bébé sera sorti de ton ventre, il te tuera et il fera comme si tu n'avais jamais existé. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'enfant et rien d'autre. Si tu avais porté une fille, il t'aurait tué avec le bébé depuis longtemps.
M'explique Naël en soupirant. Quel genre d'ordure peut tuer son sang juste parce qu'il souhaite avoir un héritier mâle?
Je le déteste.
J'aimerais qu'il meure dans d'affreuses souffrances. Mon fils est innocent, il ne mérite pas d'avoir un père aussi effroyable.
Mon rythme cardiaque s'emballe. Mes mains tremblent, je ressens une forte douleur à la poitrine.
J'ai la sensation qu'on est en train d'appuyer sur mon cœur et qu'il est sur le point d'exploser.
Calme-toi, Alba,
me conseille Naël en me lançant un regard inquiet.
Il m'aide à m'installer sur la chaise à bascule de ma chambre. Je m'y assois et essaie de me ressaisir.
Mais c'est bien plus difficile que prévu.
Il faut que je parte loin d'ici,
dis-je à Naël.
Je ne vais pas lui laisser mon bébé, il ne me prendra pas mon enfant ni ma vie.
Tu ne vas aller nulle part, rétorque Naël.
Je te rappelle que tu arrives à terme et que tu peines à te tenir debout. Si tu pars, il te retrouvera avant même que tu aies pu quitter la ville et il sera furieux.
Il faut que tu lui laisses le petit.
Une larme coule sur ma joue, suivie de beaucoup d'autres.
Naël m'a toujours défendue face à son frère et il a tout fait pour que je ne manque jamais de rien.
Il éprouve un intérêt et une affection extrêmement fort pour ce bébé qui n'est même pas encore né.
Ousni n'a assisté à aucun des rendez-vous concernant le petit.
Naël est toujours venu à sa place.
Je lui suis très reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Qu'est-ce que tu crois?
Je tonne.
Que je vais le laisser se servir de moi comme d'une poule pondeuse, puis me tuer et me prendre mon fils?
Ousni est un dangereux psychopathe. Il ne peut pas s'occuper d'un enfant.
Ça me terrifie de laisser mon garçon à cet homme doté d'une cruauté sans faille.
Ousni est un danger pour lui-même, mais aussi pour les autres.
Il est capable du pire, c'est indéniable.
Naël a espoir que le descendant de son frère sera sa rédemption.
Mais Ousni est une cause perdue depuis bien longtemps.
Tout le monde le sait sauf son frère qui se refuse à l'abandonner.
Ousni veut ce fils uniquement pour avoir quelqu'un qui restera avec lui toute sa vie et pour pouvoir exercer sa domination sur un individu.
Il va transformer mon garçon en une pâle copie de lui, un monstre dénué de sentiments et de compassion.
« Si tu veux survivre, dit Naël, il faut que tu m'écoutes attentivement et que tu fasses ce que je te dis. »«
Que je t'écoute? Tu vas me dire de quitter mon petit et tu veux que je t'écoute? Comment tu veux que j'abandonne la chair de ma chair à ton frère? Tu sais que c'est un détraqué et qu'il devrait être enfermé. »
Tu l'aimes tellement que tu as toujours excusé et minimisé chacun de ses actes.
Tu te rends compte que tu passes ta vie à réparer ses erreurs et à le défendre?
Ousni se sert de toi.
Naël serre les poings, mais il ne dit rien.
Je suis en train de déverser toute ma rancœur sur lui, tandis qu'il veut seulement m'aider, mais j'ai besoin de passer mes nerfs sur quelqu'un.
Mes paroles se mêlent à mes sanglots et à mes tremblements. Je n'arrive même pas à ordonner mes pensées tant je suis dévastée.
T'es peut-être un homme bien, Naël. Mais tu n'es pas assez lucide quand il s'agit de ton frère.
T'as un cœur immense, mais c'est tout ce que tu possèdes.
Il ne tente pas de nier. Il m'observe avec les yeux larmoyants. Il soupire et baisse la tête.
Ça me retourne l'estomac.
Je regrette immédiatement mes paroles. Ce n'est pas à lui que je dois faire des reproches. Je suis injuste.
Il détourne le regard. J'ai cru voir une larme couler, mais je n'en suis pas sûre.
Je suis désolée de devoir t'infliger ça, Alba. Je sais à quel point tu veux ce garçon et à quel point tu l'aimes déjà. Mais mon frère ne te laissera pas vivre et je ne veux pas te voir mourir.
Ce petit être compte autant pour toi que pour moi.
Tu ne peux pas imaginer comme j'aurais aimé que les choses soient différentes.
Ousni est ma seule famille. Je ne peux pas le trahir.
Mon père m'a fait promettre de toujours veiller sur mon grand frère, car il savait qu'il avait tendance à être instable.
Tu auras beau fuir. Il sèmera la mort sur son passage jusqu'à ce qu'il mette la main sur vous.
Il tuera chaque personne qui t'aura aidé sans aucun scrupule.
Je sais que t'es quelqu'un de bien, qui ne veut pas d'un bain de sang.
Me confesse Naël.
Je pleure silencieusement.
Je sais de quoi ce malade est capable. Il détruira des villes entières pour retrouver son successeur.
Il me fera payer de la pire des façons cette trahison.
Je ne pourrai jamais dormir sur mes deux oreilles.
Au fond de toi, poursuit Naël,
Tu sais que j'ai raison et que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'enfant que tu aimes tant. Tu te vois imposer une vie de fuite et de crainte à un être si petit et innocent. Qu'est-ce qui se passera quand Ousni vous retrouvera? Je n'ose même pas l'imaginer. Tu veux que je te le dise? Il te tuera sous les yeux de ton fils, et ton enfant vivra avec cette image en tête qu'il n'oubliera jamais. Je caresse doucement mon ventre tout en versant des larmes sous le regard triste de Naël. Je sais qu'il n'a jamais voulu ça et qu'il aspire au meilleur pour son neveu et pour moi. Mais c'est difficile. Je vais soudoyer la personne qui va t'aider à accoucher. Elle va te déclarer morte après l'accouchement. Ensuite, tu vas quitter le pays et aller vivre loin d'ici. Je te donnerai de quoi subsister, ne t'en fais pas. Tente de me rassurer, Naël. J'éclate en sanglots. Comment tu peux me demander de laisser mon bébé à ce fou? Ousni est un psychopathe qui ne jure que par lui-même. Il ne peut pas apporter la stabilité et l'amour dont a besoin un enfant. Il soupire. Si tu veux vivre, tu dois nous laisser cet enfant et faire comme s'il n'avait jamais existé. Je sais que c'est dur, mais crois-moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Comment veut-il que j'oublie un enfant que j'ai porté 9 mois et auquel je vais donner la vie? J'ai senti ses coups de pied et j'ai passé des heures entières à me caresser le ventre ou à lui parler. J'ai imaginé ma vie avec ce bébé. Je me suis imaginé ses premiers mots, ses premiers pleurs, son premier sourire, ses premiers pas, ses premières bêtises, son premier jour à l'école. Cet enfant fait partie de moi, il est mon souffle et ma vie. Je ne peux pas. Mon fils ne peut pas rester avec cette ordure. Il a besoin de sa mère. Ousni va le transformer en monstre. Je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Tu penses que je pourrais me construire ailleurs en sachant que j'ai abandonné mon petit à ton frère? Tu as ma parole qu'il ne deviendra pas un monstre. Je ferai tout ce qu'il faut. Je te jure sur tout ce que j'ai que ton fils sera un homme avec un cœur immense et des valeurs. Mon regard se perd dans le vide. Je veux connaître mon fils et le voir grandir. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Cet enfant est autant le mien que le sien. Tu sais ce que c'est pour une mère de ne pas savoir à quoi son bébé ressemble. Personne n'a le droit de me séparer de lui. Je hurle. Je suis sincèrement désolée. Je t'en supplie, Alba, tu dois faire ce que je te dis si tu veux que cet enfant ne devienne pas fou en apprenant que son père a tué sa mère. Tu dois disparaître et ne plus jamais revenir. Me dit Naël. Je fixe Naël, tremblante. Comment veux-tu l'appeler? Me demande Naël. Je caresse mon ventre et pleure silencieusement sous son regard rempli de pitié. Tu mérites de choisir son nom. Je lui réponds. Tu as toujours veillé sur moi pendant la grossesse. C'est à toi que revient la décision. Il s'en émeut puis il contemple mon ventre. Amir. Décide-t-il. Il sourit. En persan, ce prénom veut dire « celui qui ne mourra jamais ». Il sera fort et vaillant, rien ne l'arrêtera. Il surmontera toutes les épreuves, même les plus difficiles. Il se battra toujours pour ce qu'il considère juste. Amir, un prénom magnifique. En arabe, continue Naël, Amir signifie « prince ». Il sera le prince des Ben Khalif. Il ne reproduira pas les erreurs de ses ancêtres. Naël passe ses mains sur mes joues et sèche mes larmes. Il se met à genoux, puis colle une oreille contre mon ventre. Je me mords la lèvre pour me retenir d'exploser. Ton fils sera extraordinaire. Tu vas donner vie à un diamant qui devra étinceler parmi les fauves. Merci d'avoir fait le plus beau cadeau à cette famille, Alba. Il marque une pause. Le monde attend Amir Ben Khalif, affirme Naël en affichant un sourire. Fin du flashback.